Ce soir, c'est la question du célibat et la question de, au fond, faut-il être deux pour être heureux? Est-ce qu'on peut, comment vivre ce temps du célibat qui n'est pas forcément un célibat choisi, mais qui est plus un célibat subi? Et du coup, est-ce que c'est une bonne nouvelle, etc. Donc, est-ce que c'est au contraire plutôt un moment difficile, comment le vivre, qu'est-ce qu'on peut en tirer de bon? Ben, c'est un peu autour de toutes ces questions-là que j'aimerais réfléchir avec vous ce soir. D'abord, comme introduction, de se dire que le célibat, c'est quand même un phénomène de société. Hein, je crois qu'en France, en tout cas, il y a 9 millions de foyers fiscaux où la personne se déclare célibataire. Ça ne veut pas dire qu'elle est pas en couple, mais en tout cas, elle se déclare célibataire. Et Paris, particulièrement, est une ville de célibataires. Et puis, j'ai été voir un peu sur des sites du style Doctissimo, psychologie.com, Doctissimo.fr, et au fond, semblerait que ce soit bien. J'aime le célibat et je découvre peu à peu, depuis quelques temps, après une longue vie de couple, que c'est une source de bonheur. Mais la solitude, pour moi, ne signifie pas tristesse, absolument pas. Quant au célibat, je ne l'associe pas non plus à un manque, mais plutôt à une découverte, à une possibilité de rencontre avec soi et une ouverture sur les autres. Donc il semblerait que soit, en tout cas pour un certain nombre de nos contemporains, quelque chose de positif. Et pourtant, j'allais dire, est-ce que cette vie en solo, est-ce qu'au fond c'est une troisième voie ? Vous savez, dans une dimension chrétienne, quand on parle de vocation, d'appel, il y a les grands appels. Au fond, c'est l'appel à la vie consacrée, et donc au célibat consacré, au célibat qui est choisi. Hein, c'est un célibataire aussi qui vous parle, et c'est important que vous le sachiez. Et puis, l'appel à la vocation au mariage. Alors, sachez-le, le mariage, c'est on se marie avec une personne. Donc l'appel au mariage, c'est l'appel au mariage avec une personne. Ce n'est pas l'appel au mariage en général. On peut avoir un désir d'eux, mais en tout cas en tant qu'appel. Et pourquoi au fond dire que le célibat qui n'est pas donné, qui n'est pas choisi d'une manière ou d'une autre, n'est pas une troisième voie? Parce que contrairement aux témoignages que j'ai pu recueillir sur des sites tout à fait contemporains, pourquoi ce n'est pas une troisième voie? Parce que ce n'est pas forcément la voie du don. Et ça, c'est quelque chose, c'est important que vous puissiez vous rentrer. Et ça, c'est une vision chrétienne particulièrement. C'est que nous sommes à l'image, à la ressemblance de Dieu, d'un Dieu qui est don, d'un Dieu qui est offrande de lui-même, d'un Dieu qui ne regarde pas la dépense, et on le voit en Jésus-Christ. Et donc, on se dit, si on veut répondre à l'image d'un Dieu qui est don, c'est important aussi que moi-même je sois simplement aussi dans un don, pas seulement dans subir une réalité, mais et qu'est-ce qui fait la beauté d'une personne? C'est précisément sa capacité de don. C'est ça qui fait la beauté d'une personne. Qu'est-ce qui est séduisant chez quelqu'un? C'est de le voir se donner. Hein, et c'est pas tant la beauté plastique, physique, etc. Bon, ça peut aussi séduire, mais c'est pas ça. C'est vraiment la personne qui se donne, et qui se donne sans compter. C'est ça la beauté. Et donc, se dire qu'au fond, c'est important de rappeler que la vocation au don se fait soit dans un célibat qui est choisi, soit fait dans une vie de couple, mais de cet entre-deux, moi, me laisse perplexe. Ensuite, vous pourrez très bien avoir des avis autres. Parce que, est-ce que ce n'est pas simplement la place de l'égoïsme? Est-ce que ce n'est pas la place de certaines zones de confort? Est-ce que ce n'est pas la... je me satisfais de ça et je voyais quant à moi, je suis une espèce rare, célibataire endurci, IE. Je n'ai jamais supporté la vie en couple plus d'un an. Je me sentais prisonnière, avec un seul centre d'intérêt, l'autre et notre couple. Je trouvais ça trop restrictif. Voilà. La personne, elle dit... est-ce que ça peut être audible? De fait, ça l'est pour certains. Est-ce que c'est quelque chose qui rend heureux? J'ai des doutes. Est-ce que ça rend heureux? Est-ce que ça donne de la joie? Cet entre-deux. Ensuite, comme introduction, parce qu'on est toujours dans l'introduction, c'est évidemment cette question du célibat, c'est un certain rapport au temps, singulièrement pour les femmes. voilà, où on sent que le temps passe, etc. Et une forme d'angoisse, d'anxiété. Il y a une forme, c'est curieux, il y a une forme de dans nos sociétés où il y a beaucoup de célibataires, c'est quand même associé à une certaine culpabilité, voire à une certaine honte. Hein, je n'ai pas été préféré par quelqu'un, ou je n'ai pas choisi. Donc, on voit que c'est à la fois pour certains, ils le présentent comme la vie parfaite, mais dans la vraie vie, c'est pas facile d'arriver seul à un dîner, et le fait d'être à deux, eh bien, fait tout de suite qu'on peut, on est accueilli, on est, voilà, il y a quelque chose qui, de la valorisation de soi-même, qui est au rendez-vous. Alors, d'abord, comment vivre ce temps du célibat? Devant sa première partie, vraiment l'accueil de la réalité. Hein, reconnaître sa situation de célibataire, y consentir. Voilà, c'est une attention au déni. Et du coup, c'est l'occasion aussi, ce temps du célibat, de se replacer face à son but. Quel est le bonheur de la vie? Hein, où est-ce que je me donne? C'est le combat du sens des vraies valeurs. C'est-à-dire que le fait d'être seul, et donc de ressentir un manque, c'est aussi la manière que j'ai de pouvoir me questionner sur le sens de ma vie. Qu'est-ce qui fait, au fond, qui me rend heureux? Où sont mes vraies valeurs, hein? Et attention de ne pas tomber, pas pour fuir un peu cette situation de célibataire, attention de ne pas tomber dans une forme de falsification du don, hein, d'agitation, d'activisme, hein, de vouloir, de fuite dans le travail, par exemple, c'est assez commun, assez courant, hein, on fuit dans le travail, etc., parce qu'on fuit, au fond, de se poser la vraie question, quel est le lieu de ma fécondité, hein, quel est, au fond, le lieu où je peux porter du fruit. Et puis, ce temps du célibat, ça peut être aussi décider de la manière dont je viens de me donner. Je vous l'ai dit, nous sommes à l'image d'un Dieu qui est don, et donc c'est quel est le lieu où je suis enraciné et connu pour ce que je suis. Est-ce que vous, comme ceux qui sont célibataires en particulier, est-ce que vous avez un lieu où vous donnez, je pense à un lieu associatif, hein, et ceux du bureau de SPNSP pourraient en témoigner admirablement, parce qu'ils se donnent vraiment pour préparer une soirée comme celle-ci, c'est beaucoup de travail en amont comme vous l'imaginez, et c'est un vrai don d'eux-mêmes. Voilà. Est-ce que vous avez un lieu comme ça où vous vous donnez? Parce que ce temps-là où justement vous n'êtes pas en couple, c'est un temps, c'est le temps du don. Et donc réfléchissez, où est-ce que. Et c'est le temps de fleurir là où on est planté, et non pas toujours attendre, et au fond, est-ce qu'il n'y aura pas une autre solution, est-ce que, etc., etc. Donc c'est être, choisir une manière de se donner, choisir aussi dans son cœur. Être au clair, c'est le temps du discernement par excellence, hein, le temps du célibat, hein, c'est le temps du discernement, où est-ce que le Seigneur, puisque nous sommes dans une dimension chrétienne, où est-ce que le Seigneur m'appelle, et donc faire attention de cet entre-deux, de flirt, de zapping, de forme de compensation qu'on peut avoir au plan affectif, parce que c'est sûr, il y a une solitude affective, mais qui ne va pas m'aider au fond à m'enraciner, qui ne va pas m'aider à... Je suis plus dans la consommation, dans le vouloir... voilà, c'est sûr que la solitude fait que, au plan affectif, il y a quelque chose qui manque, mais ce zapping, en tout cas, ne m'aide pas. Hein, donc, c'est aussi le temps de se connaître soi-même, hein, le temps de l'accueil de la réalité, le temps de se connaître soi-même. Est-ce que, au fond, quels sont mes talents? Quelles sont aussi mes blessures, hein, les nécessités de relire et de relier aussi son histoire. Hein, on reproduit sans même s'en rendre compte. Hein, prendre conscience de ma manière de fonctionner. Devenir l'ami de soi-même. Je trouve que c'est intéressant, cette dimension de connaissance de soi, le fameux connais-toi toi-même. Hein, donc, qui est, je trouve, le temps, au fond, de cette amitié où on se découvre, et on se découvre dans des rapports avec d'autres. Le fait de ne pas être en couple ne va pas impliquer que je n'ai pas de rapport avec d'autres. Au contraire, je peux très bien me prendre conscience, hein, d'un certain nombre de choses. Et c'est sûr aussi, il faut éviter des pièges, comme la fuite de ses sentiments, ou une certaine fusion, ou une certaine... colère qui fait que pendant ce temps de célibat, ça peut être un temps de combat spirituel, Hein, il y a une forme de colère. Mais pourquoi je reçois toujours des faire-part et il n'y a jamais mon nom? C'est quand même une question. Ben, pourquoi? Comment est-ce que ça se fait? Hein, et comment est-ce que et de voir d'autres qui cheminent vers le mariage ou ben, plus moins nombreux, mais malheureusement vers la vie consacrée, etc. Et vous dites, mais moi, qu'est-ce que, et moi, pour moi, qu'est-ce qu'il y a? Et il peut y avoir un temps de forme de révolte, même contre le Seigneur, de colère intérieure. Ben, c'est bien d'accusation. Hein, on accuse les parents, on accuse peut-être les relations amoureuses qu'on a eues dans le passé, on accuse, que sais-je, hein, justement, c'est bien de laisser émerger ça. C'est bien d'accueillir aussi ça, cette réalité qu'il peut y avoir en vous par rapport à cette situation de célibataire. À cela, opposer, laisser monter des sentiments, accepter un deuil d'une perfection. Ça aussi, c'est parfois les personnes restent célibataires parce que elles sont dans une forme de perfectionnisme. Hein, c'est-à-dire que vous connaissez Schumann, donc fondateur de l'Europe, etc., et qui était célibataire, bon, a vécu célibataire. On lui a posé la question, mais pourquoi vous êtes resté célibataire? Ben, je cherchais la femme parfaite. Et est-ce que vous l'avez trouvée? Oui, mais elle cherchait l'homme parfait. Donc du coup, ça fait que... Voilà. Et ce perfectionnisme, faisons attention, est un vrai obstacle au don, est un vrai obstacle, au fond, à l'accueil que l'on peut avoir de l'autre. Hein, je pense que c'est bien d'en prendre conscience aussi dans ce temps de connaissance de soi-même, de construction de soi-même, hein, de l'acceptation d'un deuil de la perfection. Hein, et puis de déraciner en nous ce qui peut être un peu une victimisation, hein, et donc une accusation de l'autre. Hein, ça c'est quelque chose qui... Et c'est aussi, me semble-t-il, le temps du célibat, mais ce n'est pas le seul, c'est le temps du pardon. Dans ce sens-là, j'ai dit qu'il peut y avoir des blessures, il peut y avoir des difficultés, etc. Au lieu d'accuser, mais est-ce que ce n'est pas aussi le temps de la réconciliation? Et donc avec un tiers bienveillant, une personne bienveillante, de vous aider à cheminer progressivement vers le pardon. C'est le temps de l'accueil de la réalité, l'accueil de la connaissance de soi. Et troisième point, c'est la purification de l'amour. Vous avez eu, peut-être pour un certain nombre d'entre vous, un certain nombre de relations amoureuses qui ont compté. Moi, je pose toujours la question, vous voyez, je fais dans mon ministère, pour ceux qui me connaissent, ils finissent par un peu savoir, je me dédie essentiellement à la préparation au mariage. Et du coup... une des questions que je pose, mais est-ce que vous avez eu des relations amoureuses qui ont compté, des choses qui, voilà, et qui a mis fin à ces relations par le passé, qui a mis fin à ces relations amoureuses, etc. Donc ça peut être aussi intéressant de vous poser la question, les relations amoureuses que vous avez eues par le passé, qu'est-ce que ça vous a appris de vous? Moi je vois ça de façon positive, même si ça n'a pas abouti à un engagement, je vois ça de façon positive. Qu'est-ce que ça a appris de vous, mais aussi qu'est-ce que ça vous a d'une certaine manière, a pris de l'amour. Parce qu'il peut y avoir des fausses manières, des pièges aussi, des fausses conceptions de l'amour. Hein, de penser que l'amour est comblant, hein, je vais être comblé par l'autre. Et donc, tant que je ne trouve pas quelqu'un qui me comble et réponde à tous mes désirs, eh bien, c'est non. L'amour, on peut dire un amour romantique. On voit beaucoup ça, un amour romantique, un amour narcissique. Ça, je trouve que c'est dans notre société, c'est pour ça... On est trop dans la performance. Et pour les couples que j'accompagne, je les leur dis régulièrement, vous vous mettez trop la pression. Et d'où l'importance aussi de se poser la question, justement, est-ce que je n'ai pas des fausses images de l'amour à purifier pendant ce temps du célibat et à découvrir au fond que cet amour, on peut le faire naître, on peut l'éteindre, il peut grandir, il peut diminuer. Cet amour, il est aussi en lien avec la raison. Je trouve qu'on ne met pas assez de rationnel en général dans les relations amoureuses. Hein, et il se fonde sur une connaissance de l'autre. L'amour est un sentiment, une volonté, une décision. Hein, donc, le fait de ce temps du célibat de sortir d'une certaine idéalisation, vous voyez, une certaine idéalisation qui fait que voilà, je me mets la personne, voilà, et un peu inatteignable, hein, plus, voilà, et donc la purification de l'amour. C'est aussi le temps, un autre point, après l'accueil de la réalité, après le temps de la connaissance de soi, de la purification de l'amour, c'est le temps de l'amitié par excellence, le célibat. Et je trouve que c'est vraiment le temps où on développe les amitiés. On développe les amitiés, vous savez, les critères de l'amitié, c'est Aristote qui en parle très bien. Il dit l'amitié est à la fois bienveillance, et on veut le bien de l'autre, il est réciproque, hein, et puis il est convivial, c'est-à-dire qu'on a un certain vivre ensemble. Posez-vous la question, est-ce que vous avez vraiment un premier cercle d'amis? Est-ce que vous avez des amis intimes à qui vous pouvez vous livrer? C'est pas parce que vous n'êtes pas en couple que vous n'avez pas un lieu où vous livrez. Est-ce que vous avez ça, qui vous comprennent, des amis avec qui épancher votre cœur, mais aussi recevoir d'eux, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui est au rendez-vous dans votre vie? Donc c'est important de voir l'état de mes amitiés. Est-ce que c'est juste des connaissances? Est-ce que c'est juste un deuxième, un troisième cercle? Mais au fond, derrière cette absence de premier cercle, il y a le fait de ne pas se laisser approcher de près, parce que j'ai peur qu'on découvre qui je suis, j'ai peur de me révéler, j'ai peur de me dire, et donc du coup, je veux garder les personnes loin. Donc forcément, si personne me découvre dans mon intimité, comment tomber amoureux, comment voilà, découvrir le don et sa vocation dans une situation comme ça? Donc c'est tout ça, ce temps de l'amitié. D'oser une relation à deux, de partager avec d'autres, sachant que, vous le savez, toute vie de couple commence par une amitié. Ça c'est évident. Je veux dire, d'abord, les amoureux sont amis. Hein, c'est sûr, il y a une différence entre l'amour et l'amitié, il y a une différence de degré, mais il n'y a pas une différence de nature. C'est-à-dire qu'entre l'amour et l'amitié, de degré, bien sûr, parce qu'on va aller beaucoup plus loin dans la confidence, dans l'attraction du corps de l'autre, etc. Mais pas de nature, ça reste, pas parce qu'on se marie qu'on cesse d'être des amis, par exemple. Mais c'est cette amitié qui va jusqu'au partage de toute la vie. Donc c'est important que vous puissiez, ce temps de l'amitié que vous développez, et qui permet de porter du fruit aussi, qui permet d'oser des relations à deux, de diversifier les réseaux, de savoir demander de l'aide, hein, parce qu'il y a toujours un risque d'enfermement dans cette période de célibat, hein, d'aller vers l'inconnu, hein, d'avoir des relations avec des couples. Ça aussi, c'est, je ne sais pas, vous qui êtes célibataire, je ne sais pas, un certain nombre d'entre vous, quels sont les couples amis que vous avez, hein? Est-ce que voilà, vous les fréquentez, etc. Ensuite, comment est-ce qu'on peut voir qu'on passe passer de l'amitié à l'amour? Parce que c'est une question. Hein. Comment passer de l'amitié à l'amour? C'est-à-dire qu'on a pu faire la découverte de soi-même, devenir l'ami de soi-même, avoir un premier cercle, etc. Mais qu'est-ce qui va faire que dans la relation, je vais dire, ben oui, là je suis amoureux, hein, on peut dire qu'il y a plusieurs choses. Premièrement, c'est l'absence de l'autre me coûte. À quoi on voit qu'on on est amis? C'est que la présence de l'autre me donne de la joie et l'absence de l'autre me coûte. Si c'est l'inverse, si la présence de l'autre vous donne de la joie, mais son absence, son absence vous donne de la joie et sa présence vous coûte, dites-vous que vous n'êtes pas dans une relation d'amitié avec l'autre. Donc, c'est intéressant de vous poser la question, voilà, ce passage, parce que parfois on dit, mais est-ce que je suis amoureux, est-ce que c'est juste de l'amitié? C'est vrai, c'est... Mais, du coup, il y a, quand des personnes comme ça reviennent régulièrement, hein, quand la personne revient régulièrement dans votre cœur, dans vos pensées, vous souhaitez la rencontrer, vous souhaitez, etc., ben, je trouve que c'est un des signes, au fond, qu'il y a un amour qui est naissant. Hein, mais c'est vrai que pour que ce soit un amour, de même pour une amitié, il faut que ce soit réciproque. Hein, le désir commun, pas toujours identique, l'attrait physique, hein, même si ça se travaille, s'avouer à soi-même qu'on est amoureux. Parfois, on n'ose pas se dire ça. Parce qu'on se dit, oui, parce qu'on s'est pris un certain nombre de déconvenues dans les, qu'on a ouvert son cœur à des personnes de l'autre sexe, etc. Et du coup, on a pu avoir des déconvenues et du coup, on n'ose pas trop dire, on n'ose pas trop, se lancer ou dire simplement, ben, j'aimerais bien qu'on fasse davantage connaissance, etc. Se donner les raisons de l'amour qu'on ressent ou que l'on ne ressent pas. Ça, je pense que c'est aussi intéressant de se dire ça. Au fond, c'est qu'est-ce qui fait que telle personne m'attire? Qu'est-ce qui fait que... Il y a des styles d'hommes, des styles de femmes. Ça aussi, le célibat, je trouve, c'est un temps de connaissance. Quel est le style de personne qui m'attire? Autant je ne crois absolument pas à l'homme de ma vie, à la femme de ma vie, si je n'y crois, mais absolument pas. Je trouve ça vraiment quelque chose qui n'est pas opportun, parce que vraiment qui est complètement, même décourageant, parce que cet homme de ma vie, enfin, il se retrouve, je ne sais pas quoi, à l'autre bout de la planète, bon, ce sera compliqué peut-être de se rencontrer. Mais en revanche, ce que je crois, c'est qu'il y a des styles de personnes. Qu'est-ce qui me touche dans une personne? Qu'est-ce qui me touche dans un homme? Qu'est-ce qui me touche dans une femme? Qu'est-ce qui... Et je trouve que c'est aussi mettre des mots là-dessus. Hein, c'est le temps du célibat, c'est de mettre des mots sur ce qui vous touche, de se donner des raisons de l'amour qu'on ressent ou que l'on ne ressent pas. Et puis c'est un temps de la patience, parce que c'est sûr, il y a un combat spirituel dans le célibat. Je veux dire que le célibat consacré que je vis aussi comme religieux, il y a aussi un combat spirituel. Hein, et je trouve que c'est... Mais c'est quelque chose qui aussi aide à porter du fruit, une patience. Et puis, la question d'être attentif aux signes, sachant qu'il faut, d'une certaine manière, se méfier de ce qu'on appelle le providentialisme. C'est quoi le providentialisme? C'est de voir des signes partout. Hein, de voir, ben, mon père, pourquoi on était à une retraite, on s'est connu à la retraite, et vous savez pas quoi, on tire une parole de Dieu... La même parole de Dieu, mon père, ça, c'est pas du lourd, ça. Oui, peut-être, mais bon, oui, attention à ces signes, en fait, que j'interprète comme voulant me conforter moi-même. Le signe, moi, je crois que Dieu agit dans l'histoire, je crois tout à fait que le Seigneur nous fait signe par des rencontres, par des événements, etc. Mais le signe, pour être signe, c'est bien qu'il soit... validé, chalidé par une tierce personne, par un aîné dans la foi, hein, quelqu'un qui quelque part viendra objectiver le signe, hein, vous dire, ah bah oui, ça peut être, hein, le fait de vous être connu dans un lieu comme ça, bon, le fait de se connaître dans des lieux d'église par exemple, bah c'est, ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà qu'il y a beaucoup de valeurs que vous partagez en commun. Si vous êtes ici ce soir, il y a un certain nombre de choses que vous partagez et qui voilà, et donc c'est pas complètement aberrant de penser que des personnes peuvent se rencontrer dans des situations, voilà, de mouvements de jeunes d'église, etc. Parce que précisément, on se rencontre. Mais attention aux signes et à ne pas se laisser à une certaine providentialisme, hein, de faire que, au fond, que de voir des signes partout. Ensuite, de la question de l'amour et de l'amour à l'engagement. C'est intéressant, le temps de l'amitié, passer de l'amitié à l'amour, de l'amour à l'engagement. Comme je vous l'ai dit, dans une dimension chrétienne, une relation amoureuse ne peut pas être une consommation de l'autre, ne peut pas simplement parce que on se tient chaud en hiver, etc., du coup on est ensemble, non, ou ça fait bien d'arriver ensemble à un dîner, ou ça... Non, c'est... Si, en tout cas, c'est très clair, c'est une dimension chrétienne, on ne commence pas une relation amoureuse en excluant le mariage. C'est-à-dire, je commence avec une personne, mais je suis sûr, de toute façon, que ça n'ira pas à l'engagement. Ben non, ça c'est pas de Dieu. Parce que là, on est dans l'utilisation de l'autre. C'est juste parce que, voilà, c'est bien, c'est agréable, c'est juste parce qu'il est agréable, c'est parce que, ou parce que c'est utile, moi j'ai mon permis de conduire, mais pas de voiture, lui il a une voiture, mais pas de permis de conduire, bon, voilà, et donc du coup, voilà, on se rend des services mutuels, bon, c'est très bien, mais Oui, vraiment la question de l'engagement, ça fait partie de l'ADN du chrétien, du disciple de Jésus. C'est vraiment dans la question, c'est pas la première fois que vous en entendez parler, ni la dernière fois. On a une culture de l'engagement. Quand on est disciple du Christ, on a une culture de l'engagement. On se sent responsable aussi de l'univers qui nous entoure. Et donc, dans la relation amoureuse, en tout cas, dès que l'on voit qu'il y a le panneau fin, FIN s'affiche dans son cœur, dès qu'on voit que ça ne va plus le faire, ben je crois que c'est bien de couper, d'arrêter, parce qu'on sait que ça n'ira pas de toute façon jusqu'à l'engagement, qu'est le mariage, par exemple. Et donc, je trouve ça intéressant de cette question de l'engagement. C'est vrai que la question de l'engagement, c'était le risque, en fait, c'est choisir un risque. L'engagement, parfois, nombre des peurs liées à l'engagement, ce sont des peurs de souffrir. C'est des peurs de se révéler, des peurs d'échouer, des peurs de dire au fond l'affection qu'on peut avoir pour telle ou telle personne, et qui fait que, voilà, c'est des peurs de ne pas être accepté. Un certain nombre de peurs, quand on regarde les difficultés qu'on a à s'engager, et on voit bien que l'engagement aujourd'hui c'est compliqué, c'est souvent lié à des peurs. C'est des peurs où on est dans une certaine réticence. Et l'inverse de ça, c'est la confiance. Et c'est vrai que comme croyants, nous avons confiance. C'est ça, le fait d'être croyant. Le croyant n'est jamais seul. Le croyant n'est jamais seul, c'est-à-dire il prend conscience d'une présence dans sa vie. Et c'est ça être croyant, c'est il y a une présence dans ma vie. Et donc cette présence dans ma vie, elle m'accompagne. Et elle m'accompagne, ce qui me permet de franchir des pas dans la confiance, qui est le remède justement à toutes les peurs que je peux avoir par rapport à un engagement, etc. Je trouve que c'est intéressant aussi de se poser la question de lorsqu'on commence comme ça une relation amoureuse, jusqu'à quand durer, jusqu'à voilà, ça on déborde, j'allais dire, vers une autre enseignement, quelle destination donner à une relation amoureuse. Mais là vous êtes déjà plus dans le temps du célibat, mais en tout cas ce que vous avez pu vivre dans le temps du célibat, je trouve que quelque chose qui va être au service de toute forme d'engagement que vous prendrez, que ce soit aussi un engagement professionnel, parce qu'il y a aussi des métiers vocations, que ce soit un engagement, mais à un moment donné qu'il y ait un don, qu'il y ait un vrai choix qui soit fait. Et puis il y a le célibat, je parlais beaucoup de la vie amoureuse, etc. Mais il y a le célibat qui est aussi le signe de l'amour. C'est le célibat consacré. Je trouve que c'est important que comme jeune chrétien, vous puissiez vous poser la question sérieusement, est-ce qu'il y a cet appel au célibat consacré n'est pas aussi pour moi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne retentit pas dans mon cœur? Le fait d'accueillir, comme disait Jean-Paul II, le prêtre est seul pour que les autres ne le soient pas. Et alors que l'on voit, bien souvent, c'est une ritournelle, mais moi ça fait 30 ans, plus de 30 ans que je suis dans la vie religieuse, à chaque fois la question on dit le mariage des prêtres, mais en fait c'est ordonner les hommes mariés, etc., ça revient, mais alors que le mariage lui-même est dans une crise formidable, et il y a des divorces à gogo, mais bon, là, pour les prêtres, il semblerait qu'il faut absolument les emmener vers le mariage, bref. Donc, c'est quand même étonnant, vous connaissez avec moi, c'est particulier. Ben, je trouve que le fait d'accepter de se consacrer dans le célibat, c'est aussi une forme de compassion. C'est aussi une forme de partager aussi tous ceux qui, pour X raisons, n'ont pas forcément la possibilité de vivre une vie de couple. Ou parce qu'ils n'ont pas rencontré la personne, ou parce que c'est des personnes qui sont en grande précarité, ou des personnes malades physiquement, psychiquement. Il y a une forme de compassion dans le célibat consacré. Je trouve que c'est très beau de pouvoir... C'est sûr qu'il y a un manque. Il y a un manque, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose comme homme, évidemment, j'aimerais avoir la tendresse d'une femme, c'est une chose absolument claire. Il y a un manque, mais ce manque, il n'est pas fermeture à l'autre, ce manque, il est ouverture à l'autre. Et il est capacité d'accueillir. Et je trouve que là, il y a quelque chose dans le célibat consacré, soit dans la prêtrise ou dans la vie religieuse, il y a quelque chose, il y a une vraie parole pour notre monde. Hein, ce n'est pas parce que je ne suis pas en couple que je ne suis pas dans une relation de don et d'accueil de l'autre. Hein, et alors ça, c'est ce célibat qui est le signe de l'amour. Hein, au fond, c'est ce célibat qui permet d'accueillir et d'être attentif. Et pour terminer cet enseignement, je vais peut-être lire un passage. Je suis pas mal inspiré d'un livre du père Pascaline. J'aime bien ce père-là, « Célibataire, oser le mariage », hein, aux éditions Saint-Paul. Et il termine comme ça, un peu ça son livre, et j'aimerais aussi terminer cette méditation là-dessus. Le célibat n'est pas une fatalité, il est une promesse, telle est la conviction que je porte. Or, il n'est pas fatal, car il n'est jamais sans raison. On ne peut accueillir la première affirmation qui réjouit sans accepter la seconde, qui attriste, inquiète, culpabilise. Pourquoi la connexion est logique, moyennant deux précisions essentielles. La première est que raison ou cause ne signifie pas faute. Faute seule engage la responsabilité. Père Pascaline dit, parce qu'il y a une forme de culpabilité, le fait de ne pas être en couple ou face à la société, et dit, le fait, il peut y avoir une responsabilité parce qu'on a un certain nombre de peurs, mais ça ne veut pas dire qu'il y a une culpabilité. Et la seconde raison est qu'il y a plutôt le plus souvent se mêlent des causes subies, des circonstances, des blessures, ou des causes voulues, un égoïsme, un orgueil. Le discernement est important. Les premières causes supposent parfois un chemin de reconstruction. Les secondes demandent le pardon et la conversion du cœur. Voilà, je trouve que c'est quelque chose qui... ce temps du célibat et ce temps de... au fond de la... c'est un temps du bonheur, c'est un temps de gestation. Moi, je vois ça vraiment comme un temps un appel à quelque chose qui va pouvoir vous emmener plus loin. Donc, peut-être vous le vivez, mais ensuite on va essayer de faire passer le micro pour ceux qui souhaitent intervenir, etc. Parce que c'est aussi important d'avoir votre écho, comment est-ce que vous vivez ce temps-là. Et du coup, voilà, ce que peut-être vous pouvez faire maintenant, tiens, je vais vous proposer ça, ça me vient, je sais pas si... On peut essayer de vous mettre 4 par 4, et vous puissiez partager, même si vous êtes en couple, comment vous avez vécu ou comment vous vivez, si c'est le cas, ce temps du célibat. Est-ce que ça vous paraît possible? Hein? Allez, ben go, on y va, vous échangez.